Journal d'un écrivain, 1877, mars. Chapitre 1. Encore une fois, Constantinople doit être à nous tôt ou tard. L'année passée, au mois de juin, j'ai écrit que Constantinople, tôt ou tard, devait être à nous. C'était alors une époque d'enthousiasme et d'héroïsme. La Russie entière suivait de ses vœux son peuple, son armée, qui partait volontairement pour servir le Christ et la foi orthodoxe contre les infidèles, pour aller en secours de nos frères de sang et de religion, les Slaves. Bien que j'eusse critiqué moi-même mon article en le qualifiant d'interprétation utopique de l'histoire, je croyais fermement à ce que j'écrivais, et je suis bien sûr que je n'en changerai pas un mot aujourd'hui. Voici ce que j'ai dit alors sur Constantinople. Oui, la Corne d'Or et Constantinople, tout cela sera à nous. Cela viendra de soi-même, et les temps sont proches, tout l'indique. Il semble que la nature elle-même en ait décidé ainsi. Et si le fait ne s'est pas accompli, c'est que la poire n'était pas mûre. J'expliquais alors ma pensée. Si Pierre le Grand, disais-je, au lieu de fonder Pétersbourg, avait eu l'idée d'occuper Constantinople, je crois qu'après quelques réflexions, il aurait abandonné son projet. En terre finnoise, nous ne pouvions guère éviter l'influence des Allemands voisins, soit. Mais comment eussions-nous pu paralyser l'action des Grecs à Constantinople, de ces Grecs 100 fois plus fins et avisés que les Allemands, et 1000 fois plus que ces derniers, doués d'affinité avec nous-mêmes, capables au besoin de s'instruire et de se moderniser bien avant les Russes. Ces Hellènes eussent politiquement envahi la Russie, et notre nationalité eût été arrêtée dans son développement par ces gens toujours tournés vers les routes d'Asie. Le grand Russe serait demeuré isolé dans son or neigeux, tandis que son frère du Sud, le petit Russien, aurait été absorbé par l'élément grec. Peut-être même y eut-il eu scission dans le monde orthodoxe. D'un côté Byzance rajeunie, de l'autre la Russie septentrionale. En un mot, toute l'entreprise de ce genre était alors prématurée. À présent, c'est autre chose. De nos jours, écrivais-je, la Russie pourrait annexer Constantinople sans y transporter sa capitale, ce qu'on n'eût pas évité du temps de Pierre le Grand, et même des années après lui. Maintenant, Constantinople deviendrait peut-être, sans être la capitale de la Russie, le centre du panslavisme, comme quelques-uns le rêvent. Les Grecs ne peuvent nullement hériter seuls de Constantinople. On ne peut leur livrer un port d'une telle importance. Ce serait hors de toute proportion avec leur valeur éthique actuelle. Mais de quel droit moral la Russie se prévaudrait-elle pour s'emparer de Constantinople? Au nom de quel principe supérieur aurait-elle la faculté d'imposer son occupation de cette ville à l'Europe? Ce serait précisément, ai-je écrit, les conditions d'existence de la religion orthodoxe qui exigeraient l'intervention de la Russie. Le rôle que notre pays doit jouer ne s'est clairement révélé qu'après Pierre le Grand, quand la Russie a compris que son devoir était de devenir la réelle tutrice de l'orthodoxie. Au point de vue religieux, les Slaves ou les Grecs, c'est tout un. La plus grande nation orthodoxe a le devoir de se faire la protectrice de la religion grecque. Le Russe sera le protecteur, le chef, mais non le maître des populations qui partagent ses croyances. Toutes ces opinions ont été exposées par moi dans l'article de juin auquel je faisais allusion. Je n'affirmais pas que l'on pût réaliser immédiatement tout ce que j'indiquais, mais, disais-je, le temps se chargera de me donner raison. Il est encore difficile de préciser le moment où il sera bon d'agir, mais on peut pressentir qu'il est assez proche. Depuis mon article, 9 mois se sont passés. Des mois qu'il ne faut pas porter en compte, des mois troublés, occupés d'abord par l'enthousiasme qu'excite la guerre, par les espérances qu'elle fit naître, puis par des déceptions. On ne peut encore fixer aucune date, et je n'ai voulu qu'ajouter ici quelques paroles explicatives afin de commenter mes rêves de juin sur l'avenir de Byzance. Quoi qu'il arrive, Constantinople sera à nous tôt ou tard. Je reviens là-dessus, mais à un autre point de vue. J'admets qu'il y ait quelque gloire à posséder un port célèbre, une illustre cité de ce monde qui a été considérée comme l'umbilicus terrae. Mais je ne m'arrête pas à cette considération si flatteuse pour nous dans un avenir prochain. Je n'insisterai pas plus sur cette vérité que la Russie est comme un géant énorme qui a grandi dans une chambre close de tous côtés, sans communication avec le reste de l'univers et qui a besoin de respirer l'air libre des océans. Je ne veux pas développer une appréciation, pour moi d'une importance extrême, bien que personne n'ait paru jusqu'à présent l'évaluer à sa juste valeur. Chapitre 2. Le peuple russe n'est que trop mûr pour avoir une opinion nette sur la question d'Orient à son propre point de vue. Il peut sembler absurde d'entendre affirmer que les 4 siècles de la domination des Turcs dans le sud-est de l'Europe ont fait beaucoup pour le christianisme et l'orthodoxie. Malgré les Turcs eux-mêmes, soit. Mais enfin, de la manière la plus positive. Rappelez-vous combien le joug tartare contribua chez nous à asseoir et à fortifier l'Église orthodoxe. La population de l'Orient, subjuguée et martyrisée, a vu dans le Christ et dans la foi qu'elle avait en lui sa seule consolation. Dans l'Église grecque, sa dernière particularité nationale. C'est ce qui l'a empêché de se fondre avec les vainqueurs en oubliant sa race et son histoire ancienne. D'autres peuples, opprimés comme les Grecs, se serrèrent autour de la croix. D'un autre côté, toutes les nations chrétiennes d'Orient prirent, depuis la conquête de Constantinople, l'habitude de jeter un regard d'espoir vers la Russie lointaine, pressentir sa grandeur future dès qu'elle eut chassé les envahisseurs tartares, et virent en elle la libératrice désignée. La Russie a accepté de succéder en quelque sorte moralement à Byzance, en plaçant l'aigle à 2 têtes byzantin au-dessus de ses armes nationales. Elle a ainsi assumé une immense responsabilité vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Le peuple russe a complètement ratifié les résolutions prises par ses tsars au sujet de la défense de leurs coreligionnaires. Elle a toujours appelé son tsar le tsar orthodoxe et semble avoir reconnu en lui, quand elle lui donna ce nom, l'unification du monde orthodoxe et plus tard le libérateur de la chrétienté d'Orient, prise entre la barbarie musulmane et l'hérésie d'Occident. Depuis 2 siècles, et surtout depuis Pierre le Grand, les espoirs des peuples du sud-est de l'Europe ont commencé à se réaliser. L'épée de la Russie a plus d'une fois lui sur le champ de bataille pour les défendre. Il va de soi que les chrétiens d'Orient ne pouvaient pas ne pas voir leur tsar futur dans celui dont ils imploraient la protection. Cependant, au cours de ces 2 siècles, la culture européenne s'est introduite en Orient. L'idée orthodoxe s'y est affaiblie tout comme chez nous, où l'immense majorité des hommes des classes instruites s'est déshabituée de croire et ne sait plus voir le rôle vrai de la Russie. Beaucoup de gens ont commencé, comme les Occidentaux, à ne plus considérer l'Église que comme un conservatoire de formalités mortes, de rites, de cérémonies vaines. Des aperçus économiques d'un caractère occidental ont été acceptés en même temps que de nouvelles doctrines politiques et une morale nouvelle. Enfin, la science mal comprise n'a pu que rendre suspectes les vieilles croyances. Des idées nationalistes apparurent aussi, qui amenèrent les chrétiens orientaux à craindre le joug russe après l'oppression turque. Mais dans notre grand peuple simple et religieux, dans notre peuple de tant et tant de millions d'âmes, l'espoir ne mourut jamais de délivrer en Orient l'Église du Christ, prisonnière des barbares. L'enthousiasme qui a soulevé toute la population russe l'été dernier l'a bien démontré. Je le sais. On ne veut pas que notre peuple russe puisse comprendre ses destinées politiques, sociales et morales. on laisse entendre que cette masse de moujiks, hier encore serfs, aujourd'hui abrutis par les alcools, ignorent tout de sa religion et se moquent un peu de la libération de l'orthodoxie. Qui dit cela? Peut-être un pasteur allemand qui fait de la propagande sur la Tchunda, ou bien un voyageur européen, correspondant d'un journal, ou bien encore un juif influent et instruit, de ceux qui ne croient plus en Dieu et sont légion chez nous, ou enfin un russe résidant à l'étranger et ne se figurant plus la Russie que sous les traits d'une mégère ivre, tenant son verre d'eau-de-vie à la main. Pas le moins du monde. Ce sont des membres de notre meilleure société russe qui ne soupçonnent pas que notre peuple, malgré ses vices, a mieux que tout autre peuple conservé en lui l'essence du plus pur christianisme. Ce peuple, corrompu et obscur, sait encore que l'homme humilié, injustement persécuté, sera élevé plus haut que les forts et les puissants. Il aime aussi à raconter l'histoire de son grand, chaste et humble héros chrétien, Ilia Mouroumets, défenseur de la vérité, champion des faibles et des pauvres, ignorant de toute vanité, fidèle et de cœur pur. Vénérant et aimant un tel héros, comment notre peuple ne croirait-il pas au triomphe et au relèvement des nations d'Orient actuellement humiliées? C'est au milieu de pauvres gens que j'ai pour la première fois entendu narrer aux enfants la vie des humbles ermites et des martyrs chrétiens. Chaque année, des rangs du peuple, un vlas quelconque se détache, qui distribue ses biens et s'en va vers la vérité, le labeur et la misère. Mais nous reparlerons du peuple russe. On finira par comprendre un jour, par savoir qu'il a une immense importance, que la Russie l'a toujours trouvé, aux minutes tragiques, prêt à se dévouer, qu'on n'a jamais pu se passer de lui, que la Russie n'est pas l'Autriche, par exemple, qu'au moment grave de notre vie historique, c'est lui qui a parlé par la bouche des tsars. Mais je me suis détourné de mon but. Je reviens à Constantinople. Chapitre 3. Les idées les plus conformes au temps présent. L'Église d'Orient et ses chefs ont vécu, pendant les 4 siècles de leur asservissement par les Turcs, en intime communion avec les idées de la Russie. Il n'y eut ni grands troubles, ni grandes hérésies alors. Ce n'était pas le moment. En ce dernier siècle, et surtout depuis la Grande Guerre d'Orient d'il y a une 20aine d'années, il s'est répandu dans l'est de l'Europe une odeur putride, semblable à celle d'un cadavre en décomposition. L'homme malade est mort ou va mourir. S'il vit encore faiblement, c'est la Russie qui l'achèvera. Actuellement, nous sommes les seuls qui nous intéressons aux chrétiens de l'Empire turc. Les peuples européens ne demanderaient pas mieux que de constater la disparition de ces chrétiens géants. Mais, hélas, ces derniers semblent nous craindre autant qu'ils abominent les Turcs. « Soit, disent-ils, la Russie nous délivrera des Ottomans, mais ce sera pour nous absorber. Elle ne laissera jamais nos nationalités se développer en liberté. » C'est l'idée fixe qui empoisonne toutes leurs espérances. De plus, voici que des rivalités nationales les travaillent. La récente controverse gréco-bulgare, soi-disant religieuse, provenait en réalité de haine de race. Le patriarche universel, en excommuniant les Bulgares et leur exarque arbitrairement élu, déclarait qu'on ne pouvait sacrifier les lois de l'Église aux principes nouveaux et funestes des nationalités. Cependant, lui-même, grec, me semblait servir le dit principe en favorisant les Grecs au détriment des Bulgares slaves. On peut être sûr qu'au moment de la mort de l'homme malade, les querelles se feront violentes entre les diverses nationalités de la presqu'île balkanique. Et nos hauts politiciens veulent pourtant que Constantinople devienne, après l'exode des Turcs, une ville internationale, justement pour éviter ces querelles. Il est difficile d'imaginer un point de vue plus faux. D'abord, si un point quelconque du globe terrestre se trouve sans possesseur bien autorisé. On voit immédiatement apparaître une flotte anglaise. Nos amis de Grande-Bretagne viendront cette fois comme les autres, sous prétexte de garantir l'internationalité ou tout ce qu'on voudra. Ils mettront purement et simplement la main sur Constantinople. Et quand ils sont installés quelque part, il est bien difficile de les déloger. Ce n'est pas tout. Les Grecs, les Slaves et les quelques musulmans demeurés à Byzance les appelleront de même. Ils se feront défendre contre la Russie, leur libératrice. On dit que les Anglais souhaiteraient le retour de désordres, du genre de ceux qui ont eu lieu cet été en Bulgarie, afin que les Turcs demeurassent seuls maîtres de la situation. Nous ne savons, mais il est sûr que, si la forte épée de la Russie entrait en jeu, les choses changeraient vite de face. L'idée de l'internationalité serait très certainement mise en avant par l'Europe, heureuse de voir les différentes nationalités de l'ex-empire se déchirer sur le cadavre de l'homme si longtemps malade. Il n'y a pas de calomnie que l'on inventerait contre nous. Si nous ne vous avons pas aidé contre les Turcs, c'est à cause des Russes, diraient les Anglais, qui sauraient appuyer leur dire, car leur intérêt est de voir les chrétiens d'Orient haïr la Russie. D'un autre côté, les Slaves haïssent les Grecs, et les Grecs méprisent les Slaves. Et les deux races finiraient par en venir aux mains, ce qui ferait l'affaire de l'Europe, tandis que la Russie, qui n'aurait pas les mêmes raisons de diviser pour régner, pourrait exercer une forte surveillance et maintenir le calme. Si la Russie a le tort de se désintéresser de ce qui se passe dans la presqu'île balkanique, l'union religieuse de toutes les populations chrétiennes qui habitent la Turquie sera continuellement en péril. À la mort de l'homme malade, il sera presque impossible d'éviter un concile qui aura pour tâche d'aplanir les difficultés rencontrées par l'Église renaissante. Pendant 4 siècles, les chefs religieux d'Orient ont suivi les conseils de la Russie. Mais qu'ils soient libres du joug turc et inspirés par l'Europe, et ils montreront de tout autres intentions à notre égard. Puis les Bulgares demanderont peut-être l'installation d'un nouveau pape à Constantinople. Et qui sait s'ils n'auront pas raison? Nouvelle querelle avec les Grecs. Il faudra que les Russes soient là pour apaiser les conflits. Nous ne devons faire aucune concession à aucune nation européenne en ce qui touche à la question d'Orient. Il y va de notre vie ou de notre mort. Constantinople doit être à nous tôt ou tard, quand ce ne serait que pour éviter des guerres religieuses. Ces guerres auraient une répercussion terrible en Russie. C'est à ce point de vue surtout qu'il convient de faire tous nos efforts pour agir efficacement dans le cas d'une désagrégation de l'Empire turc. Cette grave question d'Orient recèle tout notre futur. Ou nous nous heurterons à l'Europe et le choc peut nous être fatal, ou nous arriverons à une union définitive avec elle. Quelle que soit la fin des négociations diplomatiques, Constantinople doit être à nous tôt ou tard, ne fût-ce qu'au siècle prochain. Voilà tout ce que j'entends affirmer, mais je crois que la question est d'une gravité européenne. Chapitre 4. La question juive. Oh, n'allez pas croire que je veux traiter la question juive dans son entier. Je prends ce titre parce qu'il est commode. Soulever une question pareille, alors que la Russie renferme 3 millions de sujets juifs, vous n'y pensez pas, je ne suis pas de force. Mais je puis, n'est-ce pas, avoir mon opinion à ce sujet, et il paraît que certains juifs commencent à s'intéresser à ma manière de voir. Je reçois depuis quelque temps de nombreuses lettres où l'on me reproche de haïr le juif, de tomber sur le juif, de l'exécrer non comme être vicieux, non comme exploiteur, mais bien comme homme de race juive, parce que Judas a vendu le Christ. Notez que ce sont des Israélites civilisés qui m'écrivent ces choses, de ceux qui, au nom de leur civilisation, se vantent d'avoir rompu avec tous les préjugés de leur race, de ne plus accomplir leurs cérémonies religieuses et même de ne plus croire en Dieu. Je dirais ici, entre parenthèses, qu'ils devraient avoir honte, ces messieurs les hauts juifs, qui défendent leur nation et renient leur Jéhovah de 40 siècles. Pour moi, un juif sans Dieu est un être inimaginable. Mais ceci est un thème bien vaste, et je le laisse de côté pour l'instant. Ce qui m'intrigue, c'est de ne savoir ni comment ni pourquoi j'ai pu en venir à être compté au nombre des ennemis qui attaquent les Juifs en tant que nation. Messieurs les hauts juifs semblent me permettre, implicitement, d'aborder le Juif comme exploiteur ou comme vicieux. Mais ce n'est que de la rhétorique, car il est clair qu'il n'y a personne de susceptible et d'irritable comme un Juif instruit. Mais où ont-ils été chercher que je haïssais leur race en tant que race? J'en appelle aux Juifs qui sont en relation avec moi et qui connaissent la fausseté de cette accusation dont j'aimerais à ne plus m'occuper. Est-ce parce que j'appelle parfois un Hébreu un Juif? Je ne vois rien d'injurieux dans ce nom. Je veux citer quelques passages d'une lettre que m'écrit un Juif très instruit. Mais je désirerais savoir une chose que je ne puis aucunement m'expliquer. D'où vous vient cette haine contre le Juif qui se révèle presque à chaque page de votre carnet? Je serais heureux de comprendre pourquoi vous en voulez tant aux Juifs et non à l'exploiteur en général. Certes, j'ai souffert des préjugés de ma nation, et peut-être plus qu'un autre. Pourtant, je n'admettrai jamais que notre race ait dans le sang cette fureur d'exploitation dont vous parlez. Ne sauriez-vous vous élever jusqu'à cette conception sociale que dans un État quelconque, tous les citoyens, du moment où ils supportent les charges de la communauté, doivent être appelés à jouir des mêmes droits, de tous les droits, et à subir les mêmes peines en cas d'infraction aux lois? Pourquoi alors tous les Juifs devraient-ils être limités dans leurs droits et se trouver victimes d'une législation spéciale? En quoi l'exploitation des étrangers, Allemands, Anglais, Grecs, etc., est-elle plus agréable que l'exploitation des Juifs qui sont sujets russes? Pourquoi aussi un usurier, un mercantil ou cabaretier russe orthodoxe serait-il meilleur que son confrère juif? Et ce dernier agit dans un cercle restreint. Ici, mon honorable correspondant compare quelques usuriers russes avec d'autres vautours étrangers du même acabit et conclut que le russe ne vaut guère mieux s'il n'est pas pire. Mais qu'est-ce que cela prouve? Nous sommes d'avis que tous ces industriels ne valent rien du tout. Je pourrais multiplier les questions de ce genre, mais quand vous parlez du juif, vous incluez dans cette appellation toute la masse misérable des Israélites, soit 3 millions de juifs russes. 2 900 000 mènent une existence horrible de privation et de dénuement, et ils sont de bien meilleures mœurs que votre peuple russe adoré. Parmi les 100 000 autres qui ont reçu de l'instruction, beaucoup se sont fait remarquer, ont rendu des services considérables dans toutes les carrières libérales et autres, par exemple. Mon correspondant cite plusieurs noms. Je me borne à reproduire celui des Goldstein, sachant que quelques-uns d'entre eux seront désagréablement affectés en voyant publier qu'ils sont d'origine juive. Malheureusement, vous ignorez, je le sens, l'histoire du peuple juif pendant 40 siècles. Vous êtes un homme honnête et sincère, et vous portez inconsciemment préjudice à nombre de pauvres gens. Car bien entendu, ce ne sont pas les Israélites riches qui craignent la presse, ceux qui reçoivent les grands de ce monde dans leur salon. Voilà les principaux passages de cette lettre. Vraiment, dans toute cette année, il n'y a, dans mon carnet, aucun article anti-juif méritant d'exciter ce genre de susceptibilité. Remarquez aussi que mon correspondant est bien sévère pour l'infortuné peuple russe. Il est vrai que ce peuple n'a pas toujours été tendre pour Israël, qu'il a conspué sans en laisser une place propre, selon l'expression de Tchédrine, et cela excuse mon juif. Mais nous voyons ce que les Israélites pensent des Russes. Or, l'auteur de la lettre est un homme instruit et plein de talent, sinon dépourvu de préjugés. Qu'attendre alors des Juifs ignares? Et ceux-là sont légions. Les Russes ne sont donc pas seuls à blâmer dans la lutte juive-russe. Je dirai maintenant quelques mots pour ma défense et exposerai mon opinion sur la question. Je répète que je ne suis pas de taille à l'embrasser tout entière, mais enfin je ne suis pas non plus sans avoir mes idées à ce sujet. Pro et contra. Il n'est pas facile de connaître complètement l'histoire de 40 siècles, surtout quand il s'agit d'un peuple comme les Juifs. Mais pour commencer, je sais ceci. Il n'y a pas au monde une nation qui se soit plainte à un tel point et à chaque instant de ses humiliations, de ses souffrances, de son martyre. On croirait vraiment que ce ne sont pas eux les maîtres de l'Europe, des bourses, de la politique, des affaires intérieures des États. Mais si l'influence juive n'était pas si forte, il y a longtemps que la question slave serait résolue au profit des Slaves et non pas des Turcs. Je suis sûr que Lord Beaconsfield n'a pas oublié ses origines israélites et qu'il dirige sa politique conservatrice anglaise non seulement au point de vue conservateur, mais aussi au point de vue juif. Mettons que cela soit un propos en l'air, mais je ne puis croire que les Juifs soient si martyrisés que cela. Je crois que les paysans russes portent sur leurs épaules un fardeau que les Juifs ne porteraient pas. Mon correspondant Sudi m'écrit dans une lettre. Avant tout, il est indispensable d'octroyer aux Juifs tous les droits civils. Pensez que jusqu'à présent, ils sont privés du droit le plus élémentaire, de choisir librement leur résidence. Mais, monsieur mon correspondant, vous qui me dites dans un autre passage de votre seconde lettre que vous aimez et plaignez incomparablement plus la masse des travailleurs russes que la classe laborieuse juive. Ce qui est beau de la part d'un juif. Pensez que lorsqu'un juif souffrait de ne pouvoir choisir librement sa résidence, 23 millions de Russes pâtissaient du servage, ce qui était plus pénible. Je ne crois pas que les juifs les aient plaints alors. À l'ouest et au sud de la Russie, on vous répondra qu'à cette époque, comme aujourd'hui, ils poussaient les hauts cris en invoquant leur martyr personnel. « Donnez-nous plus de droits !» clamaient-ils, « et nous pourrons faire notre devoir envers les autochtones. » Le libérateur vint et délivra la Russie autochtone. Qui se jeta sur lui? Qui abuse de ses vices pour lui faire suer un peu d'or? Qui se substitua aux propriétaires ruraux qui, du moins, tâchaient de ne pas ruiner leurs paysans, quand ce n'eût été que dans leur propre intérêt de possesseur du sol? Le juif se moqua de toute considération. Il prit les biens des paysans russes et s'enfuit avec. Je sais que les juifs vont crier en lisant ces lignes. Je ne serai qu'un calomniateur, je ne connaîtrai pas l'histoire des 40 siècles de misère subie par ces anges purs, plus purs que toutes les nations du monde, et que mon peuple russe adorait en particulier. Soit. Que les juifs soient plus purs que le reste de l'humanité. Je lis pourtant dans le Messager de l'Europe que dans les États du Sud de l'Union américaine, les juifs se sont jetés comme sur une proie sur les quelques millions de nègres libérés et les ont déjà asservis à leur manière en les prenant par leurs besoins d'argent, en mettant à profit l'inexpérience et les vices d'une population à peine hors de tutelle. Et que vois-je dans le nouveau temps? Les Juifs se sont littéralement abattus sur le peuple de Lituanie. Grâce à l'eau-de-vie, ils s'emparent de tout ce que possèdent les habitants du pays. Les prêtres seuls sont venus au secours des malheureux ivrognes en les menaçant des souffrances de l'enfer et en organisant parmi eux des sociétés de tempérance. Et à la suite des prêtres, se sont levés des économistes qui commencent à monter des banques rurales pour sauver le peuple des menées des usuriers juifs. Ils installent aussi des marchés dans les villages pour que les pauvres travailleurs puissent acheter les objets de première nécessité à des prix raisonnables et non à des prix juifs. J'ai lu tout cela, et je sais qu'on va me crier que cela ne se passe pas que parce que les juifs sont opprimés et misérables et que ce n'est que la lutte pour l'existence. mais les Lituaniens sont encore plus pauvres que les Juifs qui les exploitent. Et je ne prends pas les articles du Messager de l'Europe et du Nouveau Temps pour d'effroyables révélations capables de bouleverser le monde. Si l'on voulait écrire sérieusement l'histoire de cette race, ou trouverait par milliers des faits semblables à ce que racontent ces deux journaux. Ce qui est à remarquer, c'est que si, au moment d'une polémique, vous avez besoin d'un renseignement sur le juif, il est bien inutile d'aller fouiller les bibliothèques. Ne bougez pas de votre siège. Prenez le journal posé près de vous, et à la seconde ou troisième page, immanquablement, vous trouverez une petite histoire juive. Inutile de dire qu'il s'agira toujours de hauts faits du genre de ceux qui viennent d'être rapportés. Naturellement, on va me répondre que les journalistes sont aveuglés par la haine et qu'ils mentent. Mais alors, si tous mentent par haine, elle doit signifier quelque chose, cette haine universelle, comme s'écria jadis Bielinski. Vous demandez à ce que le juif puisse choisir librement sa résidence. Mais le russe autochtone est-il si libre à ce sujet? Il y a là-dessus des règlements qui datent de l'époque du servage. Quant aux juifs, il est certain que leur champ d'action s'est bien élargi depuis 20 ans, car on les rencontre aujourd'hui où on ne les avait jamais vus autrefois. Et les juifs se plaignent toujours d'être victimes de la haine et de l'oppression. Je ne connais pas tous les détails de la vie juive, mais il y a une chose que je puis affirmer. Notre peuple n'a pas de haine de parti pris contre les juifs. Si vous entendez dans la rue des gamins ou des ivrognes dire « Judas a vendu le Christ », la masse du peuple ne hait pas le juif vilainement et injustement. Il y a 50 ans que je connais le peuple. J'ai même vécu avec lui dans les grandes casernes où il loge. J'ai dormi à côté de lui, sur les mêmes planches. Il y avait parmi nous des juifs, et personne ne les écartait. Quand ils étaient en prière, et quand les juifs prient, ils revêtent un costume spécial, poussent des cris, etc. On ne les dérangeait pas, on ne se moquait pas d'eux. On disait « Leur religion leur ordonne de prier ainsi », et on les approuvait. Les juifs, eux, faisaient bande à part en maintes occasions, refusaient de manger avec les Russes, et les regardaient de haut. Et où cela, mon Dieu? Au bagne! Ils ne cachaient pas leur dégoût pour les Russes, pour le peuple autochtone. Dans l'armée, il en était de même. Du reste, renseignez-vous. Demandez si l'on n'a jamais, dans une caserne, offensé le juif en tant que juif dans sa religion, dans ses mœurs. Nulle part vous ne le verrez molesté, dans le peuple pas plus qu'ailleurs. L'homme du peuple remarque que le juif le méprise, s'écarte de lui, se défend de son contact. Mais il dit tranquillement « C'est sa religion qui le veut ainsi. » Et devant cet argument suprême, il pardonne aux juifs toutes ses offenses. Je me suis demandé souvent ce qui se passerait si dans notre pays il y avait 3 millions de Russes et 80 millions de juifs. Je crois que ces derniers ne laisseraient guère les Russes tranquilles, ne leur permettrait pas de prier en paix. Je crois même qu'il les réduirait en esclavage. Pis que cela, il les écorcherait complètement, et quand ils n'auraient plus rien à leur prendre, il les exterminerait, comme il massacrait les peuples vaincus au beau temps de leur histoire nationale. Non, encore une fois, il n'y a aucune haine chez le Russe contre le Juif. Peut-être éprouve-t-il contre lui une sorte d'antipathie, mais pas partout, dans certaines régions seulement. Parfois, cette antipathie devient très forte, mais il n'y entre aucune haine de race. Et je crois que le peuple autochtone n'a pas tous les torts quand il se fâche. Status in statu. 40 siècles d'histoire. Les Juifs accusent les Russes de les haïr d'une haine qu'excite 1000 préjugés. Mais si nous ne parlons que de préjugés, croyez-vous que le juif en est moins que le russe? Je vous ai montré par un exemple l'attitude du slave envers l'israélite. Et mes slaves étaient des gens du peuple. Les lettres dont j'ai parlé proviennent de gens instruits. Et que de haine dans ces lettres contre la population autochtone! Voyez-vous, pour exister pendant 40 siècles, c'est-à-dire pendant presque toute la période par nous connue de l'histoire de l'humanité, dans une telle union, dans une telle homogénéité, après avoir perdu son territoire, son indépendance politique et presque sa foi, pour s'être refermé si souvent, toujours fidèle à l'ancienne idée, simplement modifiée en apparence, un peuple si vivace, si résistant qu'il soit, n'a pu tenir bon qu'à l'aide d'un status in statu, toujours conservé pendant ses dispersions et les persécutions qu'il a subies. En quoi consiste ce status in statu? Ce serait trop long à exposer. Mais sans pénétrer jusqu'au fond de la question, il est possible de fournir quelques données sur elle. La première idée des Israélites, c'est qu'ils représentent dans le monde la seule personnalité nationale, le juif, et que si d'autres ont l'air d'exister, il n'en faut pas faire cas. Elles sont comme si elles n'existaient pas. Aie, au milieu des peuples, une individualité distincte. Sache que tu es le seul peuple de Dieu. Extermine les autres ou fais-en des esclaves et exploite-les. Crois en ta victoire finale sur le monde entier. Méprise les autres hommes et n'aie rien de commun avec eux. Même quand tu seras privé de ta terre et de ta nationalité, même quand tu verras ta race dispersée sur toute la face du globe, crois que tout ce qui t'a été promis se réalisera un jour. D'ici là, vis dans l'union avec les tiens. Sache mépriser et attendre. Voilà, je crois, l'essence de ce status in statu. Il y a sans doute des lois mystérieuses destinées à protéger cette idée. Vous dites, messieurs les juifs civilisés, que s'il y a un vague status in statu, ce sont les persécutions qui l'ont créé, celles du Moyen-Âge et les antérieures, et qu'il ne procède que de l'instinct de la conservation. S'il a encore un faible effet en Russie, c'est que l'on vous refuse des droits légitimes. Mais je crois que, quand même vous obtiendriez l'égalité des droits, vous ne renoncerez pas à ce qui fait votre force. Nul entêtement de l'instinct de conservation n'aurait suffi à vous maintenir homogène pendant 40 siècles. Les civilisations les plus fortes n'ont pu tenir la moitié de ce temps. Les races qui les avaient fondées se sont fondues avec les autres races. Il y a là quelque chose de profond et d'universel, sur quoi l'humanité n'est, sans doute, pas encore en droit de dire le dernier mot. Que le caractère religieux soit dominant, dans votre organisation, c'est incontestable. Votre providence, sous le nom de Jéhovah, a fait serment de vous conduire à la victoire. Et c'est pour cela que je ne conçois pas un juif sans Dieu. Je ne crois même pas qu'il y ait vraiment des juifs instruits athées. Tout enfant, j'ai entendu raconter une légende qui veut que les Juifs, aujourd'hui encore, attendent la venue de leur Messie, que tous, le plus humble comme le plus haut placé, le plus ignorant aussi bien que le rabbin kabbaliste, croient que leur Messie les rassemblera de nouveau, un jour, à Jérusalem, et fera tomber tous les peuples à leurs pieds. On ajoutait que c'était pour cela que les Juifs choisissaient de préférence le métier de marchand d'or. D'or plus facile à emporter que les biens en terre, le jour où le rayon prédit brillera, où nous rentrerons dans notre vieille patrie de Jérusalem, avec la cymbale, le tympanon, nos trésors d'or et d'argent et l'arche sainte. Mais pour qu'une idée pareille se conserve, il est nécessaire qu'une tradition secrète persiste. La persécution n'explique pas tout. Les Juifs déclarent que ce n'est pas une raison suffisante pour leur refuser des droits possédés par tous les autres sujets russes. « Voyez, disent-ils, ce qui se passe en France. Les droits sont égaux pour tous. Et entendez-vous dire que la crainte du status in statu ait jamais donné l'idée de restreindre en quoi que ce soit les libertés dont jouissent les Juifs comme les autres ?» Cela prouve simplement que les Israélites sont plus dangereux là où le peuple est peu développé au point de vue des idées économiques. Et bien entendu, loin d'éclairer les masses avec lesquelles ils se trouvent en contact, les Juifs, partout où ils s'établissent, n'ont fait qu'abaisser le niveau moral des populations et les appauvrir matériellement. demander en chaque pays aux habitants autochtones ce qui leur paraît être la caractéristique des Juifs. La réponse sera unanime. Partout on vous dira « c'est le manque de pitié ». Pendant des siècles, ils ont presque littéralement bu notre sang. Toute leur activité se tournait vers ce but, asservir la population autochtone, la placer dans un cruel état de dépendance, tout en observant à la lettre les lois du pays. Ils savaient toujours être en bon terme avec ceux qui avaient entre leurs mains le sort du peuple, et ce n'est pas à eux de se plaindre du peu de droits qu'ils ont s'ils comparent leur situation à celle des populations autochtones. Même en France, le status in statu n'a pas été inoffensif. Certes, là-bas, ce n'est pas par la faute seule des Juifs que le christianisme est tombé si bas. Les habitants ont leur forte part de responsabilité. En tout cas, dans ce pays comme dans d'autres, la juiverie a remplacé beaucoup des idées naturelles au milieu par des idées juives. L'homme, partout et toujours, a trop aimé le matérialisme, a toujours été trop enclin à voir dans la liberté la faculté d'assurer son existence à l'aide d'argent amassé par n'importe quel moyen. Mais jamais la chose n'a été aussi flagrante que pendant notre 19e siècle. Chacun pour soi. Voilà le principe de tous. Je ne dis pas des malhonnêtes gens, mais des travailleurs incapables de voler ou de tuer personne. Autrefois, on était égoïste et cupide, mais le mauvais instinct était contenu par le christianisme. Aujourd'hui, on élève l'égoïsme et la cupidité au rang de vertu. Eh bien alors, ce n'est pas en vain que les Israélites règnent sur les marchés financiers, remuent les capitaux, sont les maîtres du crédit et de la politique internationale. Il est clair que leur règne complet approche. On va me rire au nez et dire qu'il faut que les Juifs aient une activité surhumaine pour avoir ainsi bouleversé le vieux monde. Je veux bien, en effet, que les Juifs ne soient pas coupables de tout, mais remarquez que le triomphe des leurs a coïncidé avec l'adoption des principes nouveaux. Leur influence a bien dû pousser à la roue. Nos contradicteurs affirment que les Juifs sont, en tant que masse, pauvres partout, et surtout en Russie, qu'il n'y a qu'une classe privilégiée d'Israélites qui possède, que les 9/10 de la race sont composés d'infortunés qui luttent pour un morceau de pain. Mais cela n'indique-t-il pas qu'il y a là quelque chose d'irrégulier, d'anormal, un vice qui porte son châtiment en lui-même? Le Juif est un intermédiaire. Il fait trafic du travail d'autrui. Le capital, c'est du travail accumulé, et le Juif aime remuer des capitaux. En tout cas, les hauts Juifs commencent à régner sur l'humanité. Ils ont déjà modifié l'aspect du monde. Les Israélites proclament à corps et à cri qu'il y a de bien bonnes gens parmi eux. Et, parbleu, feu James de Rothschild n'était pas un mauvais homme, c'est entendu. Mais nous ne discutons pas sur le plus ou moins grand nombre de braves gens ici-bas. Nous parlons de l'idée juive qui mène le monde alors que le christianisme a échoué. Mais vive la fraternité! Pourquoi dis-je tout cela? Suis-je un ennemi des Juifs? Est-il vrai, comme me l'écrit une jeune fille qui doit être fort instruite et d'une âme très noble, si j'en juge par sa lettre, est-il vrai que j'attaque si férocement ces pauvres Juifs? Est-il vrai que je les méprise si fort? Pas le moins du monde. Tout ce que je demande, c'est-à-dire plus d'humanité et plus de justice, je le demande aussi bien pour les Juifs que pour les autres. Et, malgré les objections que j'ai soulevées, je suis prêt à réclamer tous les droits pour les Juifs, bien que peut-être ils en aient déjà plus que les autochtones, ou du moins qu'ils aient de plus grandes facilités pour en profiter. Mais voici ce qui me passe par la tête. J'admets que notre commune rurale tombe absolument au pouvoir du Juif. Je crois que ce sera sa fin. Tous les biens, toute la force, passeront demain aux Juifs, et le pauvre paysan sera plus maltraité qu'au temps du sauvage, que dis-je, qu'à l'époque du joug tartare. Malgré les imaginations de ce genre qui me traversent parfois la cervelle, je répète que je suis tout disposé à réclamer pour les Juifs ce qu'ont obtenu les autres, et cela au nom d'un principe strictement chrétien. Je me contredis alors ? Aucunement. Du côté des Russes, je ne vois aucune espèce d'obstacle. Mais il y en a du côté des Juifs. Si la question n'est pas encore réglée malgré le désir général, c'est bien plus par la faute des Juifs que par celle des Russes. Je vous ai déjà parlé des Israélites qui fuyaient l'autochtone, qui ne voulaient ni le traiter en camarade, ni manger avec lui. Le Russe ne s'en fâchait pas, les excusait au contraire, en invoquant la religion du Juif, seul coupable en l'occurrence. Un Israélite encore m'a écrit que les siens aimaient beaucoup les Russes, mais s'affligeait de penser que ces pauvres gens n'avaient pas de religion réelle, qu'en tout cas, lui, ne comprenait rien aux idées religieuses de notre peuple. Alors, un Juif instruit trouve inintelligible notre religion ? Quelle sera l'opinion des Juifs illettrés ? Mais c'est surtout l'arrogance juive qui est pénible pour nous autres Russes. Le Russe n'a pas de haine religieuse contre le Juif, bien que ce dernier crie encore à la persécution. Le Russe a souvent élevé la voix en faveur de l'Israélite. Mais le Juif, lui, quand il juge si sévèrement le Russe, ne prend jamais en considération que notre peuple a été longtemps, et plus que bien d'autres, persécuté et opprimé. Peut-on affirmer que le Juif lui-même ne se soit pas ligué bien souvent avec les persécuteurs du Moujik ? Le Juif a-t-il jamais semblé s'en repentir ? Et c'est lui qui se plaint que le peuple russe l'aime peu. C'est moi qui demanderais à mes correspondants juifs d'être plus indulgents pour nous. Il serait à désirer que l'union se fît entre eux et nous, que les accusations que nous portons les uns contre les autres finissent par s'atténuer. On peut se porter garant de la bonne volonté du peuple russe. Il ne demandera pas mieux de vivre avec le Juif sur un pied de fraternité parfaite. Mais sommes-nous sûrs de la réciprocité de la part des Juifs ? Que le Juif nous montre un peu de sentiment fraternel pour nous encourager. Je sais qu'il y a parmi les Israélites un certain nombre de gens qui ne demanderaient pas mieux que de mettre fin au malentendu. Et ce n'est pas moi qui tairai cette vérité. Mais jusqu'à quel point sont-ils capables de nous aider dans une œuvre de rapprochement vraiment fraternelle ? Un enterrement. J'ai, vous le savez, reçu ces temps-ci pas mal de lettres. Il y en avait même d'anonymes. Je n'ai pas le temps de parler de toutes, mais je ne voudrais pas passer sous silence une lettre. Nullement anonyme, celle-là. Que m'a adressée une jeune fille juive dont j'ai fait la connaissance à Pétersbourg et qui m'écrit aujourd'hui de M. Avec mademoiselle L, je n'ai presque jamais abordé la question juive, bien qu'elle me paraisse du nombre des juives éclairée et de bonne foi. Sa lettre se relie très naturellement au chapitre que je viens d'écrire sur ses coreligionnaires. Elle traite la question à un autre point de vue que moi, mais semble apporter un commencement de solution. Il s'agit de l'enterrement à M. du docteur Hindenburg. J'écris ceci, dit-elle, sous une impression toute fraîche. On a enterré ici le docteur Hindenburg, mort à l'âge de 84 ans. Comme protestant, on l'a porté d'abord au temple, puis on l'a conduit au cimetière. Jamais je n'ai vu prodiguer à un cercueil de pareilles marques de sympathie, entendu des paroles de deuil aussi évidemment sorties du cœur. Le docteur est mort si pauvre qu'il n'avait pas laissé de quoi se faire enterrer. Il a pratiqué à M pendant 58 ans, et l'on ne saura jamais tout le bien qu'il a fait pendant ce temps-là. Si vous pouviez, Théodore Mikhaïlovitch, soupçonner quel homme c'était. Il était médecin accoucheur, et je crois que son nom passera, au moins ici, à la postérité. Il y a déjà des légendes sur lui. Tout le peuple appelait son père, l'aimait et le vénérait, mais ce n'est qu'après sa mort qu'on a pu réaliser tout ce qu'il valait. Pendant que la bière était dans l'église, il n'y a eu personne qui n'ait été pleuré sur les restes qu'elle renfermait. Des juives pauvres, surtout, montraient une vraie douleur, il en avait tant secouru. Notre ancienne cuisinière, qui est une femme très pauvre, est venue nous voir et nous a dit qu'à la naissance de son dernier enfant, comme le docteur voyait qu'il n'y avait rien dans la maison, il avait laissé 20 kopecks. Dès qu'elle s'était sentie mieux, il lui avait envoyé 2 perdrix. Appelée une autre fois chez une accouchée, également misérable, c'était son genre de clientèle, il s'était aperçu qu'on ne pouvait envelopper l'enfant faute de linge. Il avait retiré sa chemise et son foulard, car il portait un mouchoir de tête, et il avait couvert l'enfant. Il avait guéri un pauvre bûcheron juif dont la femme vint à tomber malade. Puis ce fut le tour des enfants. Il les visitait 2 fois par jour. Quand tout le monde fut sur pied, il demanda au juif « Eh bien, comment vas-tu me payer ?» Le pauvre homme lui répondit qu'il n'avait plus rien qu'une chèvre qu'il allait vendre. Il vendit cette chèvre 4 roubles qu'il apporta au docteur. Ce dernier les remit à son domestique, plus 12 roubles qu'il ajouta. Et le domestique, sur son ordre, alla acheter une vache. Le bûcheron, congédié par le docteur, était retourné chez lui. Quel ne fut pas son étonnement en voyant arriver une vache. Le domestique lui expliqua que le docteur pensait que le lait de chèvre était nuisible à sa famille. L'histoire de sa vie est pleine de traits de ce genre. Il lui arrivait de laisser 30 ou 40 roubles chez des pauvres. On l'a enterré comme un saint. Tous les pauvres gens ont laissé là leur ouvrage pour suivre son cercueil. Il y a chez les Juifs de jeunes garçons qui chantent des psaumes pendant les enterrements, mais ils ne doivent jamais chanter à l'inhumation d'un homme qui n'appartient pas à la religion israélite. Eh bien, aux obsèques du docteur, les jeunes Juifs chantèrent leurs psaumes, comme s'ils avaient accompagné l'un des leurs. Dans toutes les synagogues, on a prié pour son âme. Les cloches de toutes les églises sonnaient pendant les funérailles. Il y eut un orchestre militaire et aussi un orchestre dont les musiciens, des Juifs, avaient été demandés, comme un honneur, au fils du défunt, la permission de jouer pendant la cérémonie funèbre. Tous les pauvres ont donné, qui 10, qui 5 kopecks, les Juifs riches davantage, et l'on a commandé une splendide et immense couronne de fleurs naturelles qui a été portée à l'enterrement. Elle était ornée de rubans blancs et noirs, sur lesquels on avait imprimé en lettres d'or les faits les plus connus de l'existence du docteur, par exemple la fondation d'un hôpital, etc. Je n'ai pas pu lire tout ce qui était imprimé, mais peut-on énumérer tous ses mérites? Sur sa tombe, le pasteur et le rabbin ont parlé de la façon la plus émouvante. Tous deux pleuraient. Lui gisait là dans la bière découverte, vêtu de son vieil uniforme passé, la tête enveloppée d'un vieux mouchoir. Sa tête de brave homme. Et il paraissait dormir tant son teint était frais. Un cas isolé. Un cas isolé, me dira-t-on. Eh quoi, messieurs? Je vais donc être encore une fois coupable, parce que, dans un cas isolé, je vois comme un commencement de solution de toute la question, de cette question juive qui a déjà tenu tout un chapitre de mon carnet. La ville de M, où vivait le docteur, est une grande ville, chef-lieu d'un gouvernement de l'Ouest. Il y a là une masse de Juifs, des Russes et des Polonais, des Lituaniens et des Allemands. Toutes ces nationalités ont réclamé ce brave homme comme étant leur. Lui était un Allemand protestant, aussi allemand qu'il est possible de l'être. Sa façon d'agir lors de l'achat de la vache est purement germanique. C'est un trait allemand. D'abord, il a inquiété le juif avec sa question « Comment me paieras-tu ?» Et le pauvre diable, en vendant sa chèvre, n'a dû avoir qu'un seul regret, le regret que sa chèvre ne valut que 4 roubles. Ce vieux médecin était pauvre aussi, et c'était bien peu le payer de tous les services rendus à la famille juive. Mais le bon docteur riait sous cape. « Ah, tu vas voir un de nos tours allemands !» Il dut être parfaitement heureux en pensant que le juif allait avoir une vache au lieu de sa chèvre. Cette joie le rendit peut-être plus dur à la fatigue, plus satisfait encore de se dévouer, la nuit suivante, quand il se trouva au chevet de quelques pauvres juives en couche. Si j'étais peintre, j'aimerais à choisir, comme sujet de tableau, un moment de cette nuit passée là, après une telle journée. Le sujet est riche pour un peintre. D'abord la misère, trop effroyablement pittoresque, de la masure juive. On obtiendrait peut-être avec cela quelques effets humoristiques, car l'humour, c'est l'esprit du sentiment profond. Et j'aime beaucoup cette définition. Avec de la finesse et de l'esprit, le peintre pourrait tirer un grand parti du désordre où s'étaleraient tant d'objets misérables, ustensiles de ménage et autres, dans le triste taudis. Et ce désordre amusant nous toucherait tout de suite le cœur. Je vois aussi un intéressant effet de lumière. La chandelle achève de se consumer, et par l'unique fenêtre crasseuse, mais parée de givre, voici que pointe le jour nouveau, qui sera dur aux pauvres gens. Laissant la mère pour un instant, le petit vieillard fatigué s'occupe de l'enfant. Il l'a pris, mais faute de linge n'a pu l'emmailloter. Il a ôté son vieil uniforme, enlevé sa chemise et l'a déchiré en bandes. Le petit juif nouveau-né s'agite sur le lit. Le chrétien le prend dans ses bras et l'enveloppe de la chemise qu'il a enlevée de sur son propre corps. Voilà, messieurs, la solution de la question juive. Le torse nu du docteur octogénaire, frissonnant à l'humidité du matin, peut figurer en belle place dans le tableau. J'aperçois aussi le visage de l'accouchée qui regarda son nouveau-né et ce qu'en fait le docteur. Le Christ voit tout cela de là-haut, et le médecin le sait. Peut-être que ce petit juif, un jour, donnera à son tour sa chemise à un chrétien, en se souvenant du récit qu'on lui aura fait de sa naissance. Pense en lui-même le vieux docteur avec une noble naïveté. Cela se réalisera-t-il? Qui sait? Pourquoi pas? Le mieux est de croire, comme le fait le docteur, que cela se réalisera, doit se réaliser. Un cas unique, certes. Voici 2 ans, nous apprenions que quelque part, dans le sud de la Russie, un médecin qui sortait du bain et se hâtait de rentrer chez lui pour déjeuner, fut prié de donner ses secours à un homme qu'on venait de repêcher évanoui dans la rivière, et s'y refusa. Il passa en jugement pour cela. C'était pourtant, peut-être, un homme intelligent, au courant des idées nouvelles, un progressiste qui exigeait les mêmes droits pour tous, en négligeant les cas isolés. Mais le vieux docteur, qui voulait vraiment appartenir à tous, ce cas isolé, a eu toute la ville à ses funérailles. Les Russes, les Allemands et les Juifs pleuraient fraternellement sur sa bière. Le rabbin et le pasteur ont parlé, animés du même esprit d'amour et de bonté. À ce moment-là, elle était presque résolue, la question juive. Qu'importe qu'en rentrant dans le train-train quotidien, chacun des spectateurs de la cérémonie soit revenu à ses vieux errements. Une goutte d'eau finit par creuser une pierre, et les hommes universels, comme le docteur, feront la conquête du monde en lui apportant l'union. Les préjugés pâliront à chaque cas isolé et finiront par disparaître. Sans ces unités, l'entente universelle ne serait près de se faire. Un brave homme n'a pas besoin d'attendre que toute l'humanité devienne aussi bonne que lui. Très peu d'hommes comme le docteur Hindenburg seront de force à sauver le monde, tant leur exemple aura de puissance. Et s'il en est ainsi, pourquoi ne pas espérer ?